Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour et bienvenue au Carrefour de l'Europe pour parler de l'Italie aujourd'hui. Le 22 octobre dernier, Giorgia Meloni, leader de l'extrême droite italienne, devenait la première femme à la tête de l'Italie après avoir remporté les élections législatives haut la main, portant ainsi pour la première fois aussi l'extrême droite au pouvoir. 6 mois plus tard, où en est-on des promesses de campagne? Celle de se rebeller contre les diktats de Bruxelles ou encore de prendre des mesures économiques en faveur des déclassés? Si depuis son arrivée au pouvoir, Giorgia Meloni modère ses attaques contre l'Union européenne, l'ex-admiratrice de Mussolini affiche dans son pays un visage dur sur les questions migratoires et sociétales. L'heure est donc au bilan d'étape. Et pour en parler avec nous, deux invités à mes côtés, Anne-Marie Nunn, vous êtes maître de conférences en sciences politiques et responsable de ce département à l'Université Paris 8. Bonjour.
Bonjour.
Et Sarah Prestiani, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne depuis Bruxelles, directrice du plaidoyer du réseau d'organisation de défense des droits humains à Euromed Droit. Bienvenue.
La voce dell'Italia è e sarà sempre.
La voix de l'Italie est et sera de plus en plus forte en Europe. C'est le mandat que nous avons l'intention de mener à bien au cours de ces 5 prochaines années. L'Italie veut devenir une nation leader dans le contexte européen. Elle veut jouer son rôle dans le renforcement et l'amélioration de la maison commune européenne. C'est cela que je compte représenter au Conseil européen, avec bien entendu le soutien du Parlement italien grâce au mandat que vous nous donnerez aujourd'hui. Je vous remercie.
Avant de rentrer dans le vif du sujet, au moment où on enregistre cette émission, Silvio Berlusconi est en soins intensifs. Est-ce que la disparition de Silvio Berlusconi, ce vieux crocodile de la politique italienne, peut changer la donne pour Giorgia Meloni à Bruxelles et en Italie? Anne-Marie Nunn, je me tourne vers vous en tant que spécialiste de l'Italie.
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il a occupé une position centrale dans... La politique italienne, depuis 30 ans, a gouverné un certain nombre de fois. Et cette fois-ci, même si son parti était en repli aux dernières élections, puisqu'il est arrivé largement derrière la Ligue et le premier parti, qui est celui de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, il joue néanmoins un rôle capital, puisqu'il joue un rôle pivot. La question de la stabilité de la coalition, ou en tout cas des équilibres qu'ils étaient parvenus à négocier, va se poser. Il faut rappeler que Silvio Berlusconi a toujours cherché à s'affirmer, même avec des chiffres un peu moindres. Ça a encore été le cas très récemment, en février 2023, lorsqu'il a fait des déclarations tonitruantes sur Vladimir Zelensky, qui ont été démenties par la chef du gouvernement.
Juste avant, on entendait Giorgia Meloni lors du dernier Conseil de l'Europe au Parlement européen à Bruxelles le 23 et 24 mars dernier. On l'a entendu, le ton est mesuré, les mots sont pesés. L'Italie veut jouer son rôle dans l'amélioration de la maison commune européenne, dit Giorgia Meloni. Une formule qui peut vouloir dire beaucoup de choses très différentes. L'Italie, c'est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne. C'est aussi la 3e économie de la zone euro, la 2e la plus endettée et le 1er bénéficiaire du plan de relance européen post-Covid. Ça fait beaucoup. Anne-Marie Nunn, la respectabilité ou la normalisation de son image auprès des institutions européennes, c'est un enjeu majeur pour Giorgia Meloni.
C'est un enjeu un peu double. C'est d'abord un enjeu qui s'inscrit dans sa quête de légitimité venant d'une extrême droite qui jusque-là n'avait pas vraiment accédé au pouvoir à ce point. Étant une femme, il y a toute une série de facteurs qui font que par rapport à l'Union européenne, vous avez parlé du plan de relance européen, l'idée était de sembler un interlocuteur respectable et de prendre quelques distances par rapport à son groupe d'alliés, qui est le groupe qu'on appelle le groupe de Visegrad, hein, et qui rassemble un certain nombre de pays, en particulier d'Europe de l'Est, comme la Hongrie, la Pologne, etc., avec lesquels il y a des affinités idéologiques très fortes. Donc là, la situation qui semble se dessiner, c'est qu'il y a un pragmatisme économique axé sur le plan de relance et de résilience européen. Et puis, il y a en même temps des gages qui restent donnés à ces pays du point de vue des valeurs. Donc, ça va être les politiques de famille, notamment, et un certain nombre de déclarations qui sont en train d'être faites en Italie, notamment contre les familles homoparentales, etc. Donc, il y a cette position d'équilibre qui est en train d'être jouée.
Sarah Prestiani, vous qui êtes à Bruxelles, pragmatisme économique, disait Anne-Marie Nonne à l'instant. Cette opération de normalisation de Giorgia Meloni, de vouloir être perçue comme un chef d'État, comme un autre, finalement, vous la constatez à Bruxelles ? Ça marche auprès des institutions européennes ?
Sûrement, elle a extrêmement modéré les tons, mais pas forcément la pratique, exactement les deux sujets qu'on va traiter par la suite, la question de la migration, la question des droits civiques, montrent son vrai visage, mais effectivement, on voit modération des tons, on l'a vu aussi en occasion de la rencontre avec Sanchez en vue de la présidence espagnole de l'Union européenne, en accord avec un gouvernement socialiste et démocrate, très décevant la position de Sanchez, mais aussi intéressant de voir comment Meloni a modéré les tons. Après, justement, par rapport au Conseil européen dont vous faites référence, c'est intéressant parce qu'il est retourné en Italie en criant victoire sous le fait que sa voix a été écoutée sur la migration. Eh bien, nous, on a bien suivi les conclusions de ce conseil et vraiment pas beaucoup avancé sur la migration. Donc, elle a vendu une victoire qui ne l'était pas dans les faits. Donc, elle joue aussi à l'intérieur et dans sa communication en Italie sous un rôle qui n'est pas tout à fait celui qui croit défendre aussi à niveau européen. Donc, un mix d'approches différentes de sa part, mais effectivement, comme avait été cité par Anne, on voit bien que sur des thématiques, elle reste toujours à côté des alliés des Visegrad.
Position d'équilibriste, vous disiez Anne-Marie Nonne. On le voit lorsqu'il s'agit de s'adresser à ses voisins européens ou aux acteurs économiques, la post-fasciste, c'est Chine à rassurer. En choisissant comme ministre des Affaires européennes l'ancien président du Parlement européen, notamment Antonio Tajani, et le très atlantiste Giancarlo Giorgetti comme ministre de l'économie, le message qu'elle envoie à Bruxelles, c'est pas question de réclamer un changement des règles du jeu ou c'est pour brouiller les pistes, Anne-Marie Nonne?
À partir du moment, vous le rappeliez, où l'Italie est un pays fondateur de l'Union et où elle bénéficie de fonds du plan de relance européen, il y a un certain nombre de contraintes institutionnelles et économiques qui vont s'exercer sur le pays. Donc on peut peut-être le dire un peu plus précisément, ce fameux plan de plus de 700 milliards au total, l'Italie va en toucher une somme très importante puisqu'elle va toucher 191 milliards. Ce sont à la fois des dons et des prêts. Il y a 70 milliards de dons et 70 milliards de prêts. Et cet argent, la France va en toucher aussi, hein, plus de 60 milliards, cet argent, c'est destiné à des réformes et à des investissements à mettre en œuvre. Pour le moment, le problème qui se pose à l'Italie, c'est que cette bonne mise en œuvre, hein, elle est bien vérifiée par l'Union européenne. Tous les ans, l'Union européenne délivre des fonds, mais l'utilisation de ces fonds va être accompagnée de la bonne réussite d'un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs de qualité, ce qu'on appelle les jalons, et puis des indicateurs de quantité, ce qu'on appelle les cibles. Et là, on a un petit problème, parce que l'Italie s'est un peu précipitée, et elle a demandé à bénéficier de son fonds budget, elle a eu les yeux un peu plus gros que le ventre, et elle a du mal à utiliser tout cet argent. Donc là, elle est un petit peu sous les feux des inspections et des approfondissements de la Commission, et on pense que, mais c'est pas une nouveauté pour l'Italie, ni même pour d'autres pays, qu'elle n'arrivera pas à utiliser ses fonds. Donc là, c'est un souci. Cet argent, ils en ont besoin parce que ça peut permettre la relance. Donc là, Giorgia Meloni, elle est effectivement dans une situation par rapport à Bruxelles où sa crédibilité est en jeu. À l'intérieur, on lui reprochera si cet argent n'est pas utilisé. Et il y a toute une rhétorique qui est en train de se développer sur c'est la faute du gouvernement précédent, c'est la faute du gouvernement Draghi, pour excuser cela. Donc oui, elle est contrainte à la fois par ce plan et par les règles du pacte de stabilité. On le sait, on est censé respecter 3% du déficit. L'Italie, actuellement, est à 8% du déficit budgétaire. Donc, ce sont des problèmes qui vont se poser. Et sa recherche de légitimité passe par le respect des règles.
Les indicateurs ne sont pas très bons, vous le dites. Traditionnellement, vous le dites aussi, l'Italie a du mal à dépenser cet argent parce qu'elle n'a pas un appareil d'État assez fort, des lourdeurs administratives qui lui pèsent et dont, en effet, Giorgia Meloni n'est pas responsable. Mais est-ce que la présence de l'extrême droite dans l'administration ne risque pas d'accentuer ce problème pour Giorgia Meloni, Anne Merinen?
Alors, oui, il faut rappeler une chose, hein, vous avez raison en parlant de présence de l'extrême droite, c'est qu'il existe en Italie, comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis, un système qu'on appelle le spoil system, le système des dépouilles. Et donc actuellement, depuis l'arrivée au pouvoir, il y a un certain nombre de nominations qui ont été faites à la tête des ministères italiens. Les directeurs d'administration centrale ont été entièrement changés dans un certain nombre de ministères, par exemple comme le ministère de l'économie. Pour autant, est-ce qu'il faut nommer ces grands commis de l'État de l'extrême droite? Je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont très marqués à droite. Il y a d'autres types de nominations, comme dans les musées, et il y en a d'autres qui sont en train d'avoir lieu. Plus ou moins la période de Pâques, on va avoir les postes, toutes les grandes entreprises d'énergie italienne, l'électricité, les hydrocarbures, l'aviation civile, etc., qui changent de tête. Et c'est Giorgia Meloni qui nomme. On lui propose, mais c'est elle qui dispose. Donc, ils sont clairement en train de mettre en place une administration, en tout cas à sa tête, très proche de l'exécutif, ce qui n'est pas étonnant, très orienté également. Ce n'est pas ça qui va avoir une influence sur la bonne utilisation ou le décaissement. Le problème, c'est le sous-effectif chronique de personnel dans l'administration italienne. Son organisation, sans doute améliorable, hein, c'est une grande bureaucratie. Et quand je dis sous-effectif, pour vous donner un exemple, les derniers concours qui ont été organisés ne sont pas pourvus. C'est-à-dire que 70% des places d'ingénieurs et d'architectes, or eux, ils ont un rôle considérable dans l'élaboration des cahiers des charges et la réponse aux appels d'offres, 71% n'ont pas été pourvus. Et c'est comme ça pour d'autres disciplines aussi, où on a des trous d'environ 50%. Ils ont une administration publique qui est insuffisante, qui est mal payée et qui n'est pas attractive. Et donc, c'est très compliqué de gérer beaucoup de projets. En tout cas, au niveau central, c'est aussi compliqué, parfois au niveau local. C'est pas la même chose partout. C'est une des raisons pour lesquelles au nord, le gouverneur de la région de Vénétie, Luca Zaia, mais aussi le maire de Milan, ça, là, ont proposé, on dit, ben, nous, on peut, on va les utiliser, cet argent. On a l'appareil, donnez-le-nous. Ce n'est pas possible.
L'autre inquiétude, c'est comment va être dépensé cet argent. Les inquiétudes de Bruxelles portent notamment sur la volonté de Rome de financer avec des fonds européens la rénovation d'un stade de football à Florence, par exemple, ou la construction d'un centre sportif à Venise. Voire, une des craintes, c'est que ces financements européens puissent partir dans les poches des puissantes mafias italiennes, comme nous l'explique Blandine Hugonnet dans ce reportage.
La Lombardie est aujourd'hui la deuxième région d'Italie à plus forte densité mafieuse après la Calabre. Rien qu'à Milan, plus de 200 biens ont été confisqués en 10 ans. Un ancrage de la criminalité via un insidieux modus operandi, analysé par le directeur de l'Observatoire milanais de la criminalité organisée.
La 'ndrangheta s'infiltre d'une façon qui n'est pas directement visible, parce qu'on ne dit pas « elle a pris la cathédrale » ou « elle a conquis Prada ». Non, elle mise sur des secteurs qui intéressent moins, les services de ménage, de livraison ou de transport, ou les grands chantiers du Nord, comme le TGV. Pas pour diriger le projet lui-même, mais pour faire les travaux de terrassement, les constructions immobilières. Elle s'introduit dans toutes les occasions qui, en apparence, ne pèsent pas grand-chose, mais qui, tout accumulé, leur offrent un contrôle de la société, en la grignotant par le bas. Ainsi, ses racines dans le Nord sont profondes désormais. Donc il ne s'agit plus d'infiltration ici, mais bien d'un pan de la réalité.
C'est un pezzo della realtà, non è un'infiltrazione.
Présente avec son escorte en marge de la manifestation, Alessandra Dolci, magistrate antimafia du parquet de Milan, est intervenue sur les méthodes de la criminalité organisée en Lombardie qui ont fait évoluer celle de la justice dans le cœur économique du pays.
Notre travail de surveillance a changé. Avant, il concernait surtout le trafic de drogue et les délits d'extorsion à caractère violent. Aujourd'hui, on contrôle surtout les opérations économiques suspectes des entrepreneurs, les banqueroutes, les fausses factures. C'est de là que partent désormais nos enquêtes pour combattre la criminalité économique ici.
Comment réagir face au clientélisme, aux tentatives de pot de vin ou à l'omerta dans une région où l'emprise mafieuse est récente et méconnue, comparée aux plus de 150 ans d'ancrage dans le sud de l'Italie ?
Roberto Monta, je suis président d'Aviso Pubblico, le réseau des collectivités locales pour la formation anti-mafia.
Pour que les communes du Nord se rangent du côté de la légalité, cette organisation anti-mafia a rédigé une charte qui fait référence depuis 10 ans désormais et est aujourd'hui prise comme modèle par l'Union européenne. Un guide des bonnes pratiques à adopter pour rester intègre face aux mafiosi. Une centaine de localités y ont adhéré en Lombardie.
L'objectif est d'accompagner les administrateurs locaux pour affronter le phénomène mafieux qui utilise toujours plus la corruption ou l'excuse de faire une bonne affaire. Et je crois que certains choix et certaines attitudes, par exemple comment je me comporte si on veut me faire des cadeaux, c'est un appel à la vigilance et à la responsabilité. Donc nous avons le devoir de leur faire comprendre comment gérer les services publics locaux ou les appels d'offres pour encadrer aussi les ressources européennes qui leur sont injectées.
Alors que la Lombardie et la région voisine du Piémont concentrent un tiers des projets financés par le plan de relance européen de près de 200 milliards d'euros, les associations anti-mafia en Italie craignent qu'une partie finisse dans les caisses mafieuses. Ces jours-ci, elles lancent aussi l'alerte sur le risque d'une mainmise de la criminalité organisée en Italie sur les fonds publics investis dans des chantiers titanesques pour les Jeux Olympiques d'hiver 2026, prévus sur un territoire déjà conquis, entre les Alpes italiennes et Milan.
Inquiétude que l'argent de Bruxelles finisse dans les poches de la mafia. Autre litige avec Bruxelles, la coalition d'extrême droite a prévu de prolonger encore d'au moins un an jusqu'à fin 2024 les concessions accordées aux plages privées. C'est un secteur très opaque en Italie que le gouvernement précédent de Mario Draghi avait décidé de réformer avec des appels publics. Est-ce que c'est là le premier signe d'une politique d'extrême droite à l'œuvre, Anne Merinen?
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on se promène sur la plage en Italie, on a cette surprise de voir qu'il y a très peu de plages que nous, on appelle publiques et que les Italiens appellent plages libres, spiaggia libera. Pourquoi ? Parce que l'essentiel du littoral est occupé par des concessions. Ça fait des années que ça dure. Dans certains endroits, on a constaté des infiltrations mafieuses extrêmement fortes et puissantes, comme en particulier sur le littoral d'Ostie, autour de Rome, où un certain nombre de clans italiens, du sud, du centre ou de Rome, possèdent ces concessions. Le système qui leur a permis de prête-nom, de pression politique, de conserver ses concessions est connu. Hein. Il a même fait l'objet d'une partie d'une série qui s'appelle Suburra. De là à dire que le fait que ce gouvernement ne va pas en un an réformer ce qui existe depuis des trentaines d'années soit une dérive d'extrême droite, je ne suis pas sûre. En revanche, ce que l'on sait parfaitement, c'est que il y a eu des collusions entre ces groupes mafieux et un certain nombre de groupes d'extrême droite tout à fait corrompus et affinitaires avec eux. Il y a un vrai écosystème. Je ne suis pas certaine qu'on puisse dire que le gouvernement trempe là-dedans.
Oui, l'idée n'est pas d'accuser qui que ce soit, mais on le comprend, c'est un problème ancien et compliqué. Sarah Pressiani, vous avez entendu le reportage. Quelle est votre réaction ?
Sur la question de l'infiltration mafieuse, malheureusement, c'est un des sujets les plus centrales, les plus sensibles, les plus importants, parce que malheureusement, caractérise l'Italie depuis plusieurs années. On a entendu aussi cette question quand c'était, par exemple, les soutiens à l'agriculture biologique. Mais la question, c'est de mettre en œuvre toute mesure pour contraster toute possible infiltration ou réellement, comme c'était dit, présence réelle des mafias. Aujourd'hui, quand on entend quelles sont les priorités des conseils des ministres, notamment du ministère de l'Intérieur, ils sont par exemple beaucoup plus centrés sur la criminalisation de l'immigration plutôt que faire de la lutte à la mafia la priorité du gouvernement italien.
Sur le plan de relance et la capacité de l'Italie, de Giorgia Meloni, de l'exécuter, on l'a compris, c'est une préoccupation pour Bruxelles. Est-ce que c'en est une aussi en Italie, Sarah Pressiani ?
Sur la question du PNR, bien sûr, c'est vraiment une priorité du débat italien. Mais la question, c'est on voit une opposition, une société civile qui essaye de reporter la discussion sur des thèmes centrales de l'agenda européen. Et on voit une Meloni qui, dans l'agenda européen, essaye d'imposer d'autres thèmes. Par exemple, un sujet très intéressant sur lequel elle essaie de se positionner dans les contextes européens, c'est par exemple la politique étrangère. On voit qu'elle essaie d'avoir un rôle de lead, notamment dans la négociation relations avec des pays voisins de la Méditerranée, comme la Libye, comme la Tunisie, comme l'Algérie, en touchant différents sujets. On revient aussi là au cœur de l'intérêt de la migration, parce que c'est aussi dans ces intérêts nationaux qui fait ces dialogues. Donc voilà, c'est en question d'une opposition et une société civile et une population qui essaie de porter des thématiques et des sujets vraiment importante sur la transition écologique, une vraie réforme structurelle et un gouvernement qui patauge en essayant de, et c'est vraiment la technique qu'on voit de Meloni, de donner la faute aux autres. C'est toujours la faute aux autres, c'est la faute au gouvernement précédent, c'est la faute à d'autres réalités. On est arrivé même, par exemple, à dire que la faute d'augmentation des arrivées des migrants, c'était liée à Wagner qui poussait les migrants vers l'Italie. Donc on est arrivé au surréalisme pour donner la faute aux autres. Donc ça, c'est un peu la tendance qu'on voit aujourd'hui, c'est déresponsabiliser sur des choses qui malheureusement posent sous la responsabilité de l'État.
Carrefour de l'Europe, Léa-Lisa Vesterhoff.
Carrefour de l'Europe se penche aujourd'hui sur l'Italie, presque 6 mois après l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite dans le pays. Pour en parler avec nous, Anne-Marie Nunn, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 8, et Sarah Prestiani, directrice du plaidoyer pour le réseau d'organisations de défense des droits humains Euromed Rights. 150 jours à la tête du gouvernement italien pour Giorgia Meloni, on le disait, avec son parti néo-fasciste Fratelli d'Italia, la chef de l'exécutif s'est positionnée en faveur de l'Ukraine. Elle a modéré ses attaques contre l'Union européenne. Comme les autres pays européens, Giorgia Meloni doit affronter l'inflation, la pénurie de matières premières, au point qu'on en oublierait presque son ADN d'extrême droite. C'est l'œil européen de Franceline Beretti.
Elle ne s'en tire pas trop mal, Meloni. Même le centre-gauche italien le reconnaît. Pourtant, elle doit composer avec sa propre équipe, pas toujours aidante. Il y a par exemple son ministre de la Famille. Il a tenu ses propos sur la gestation pour autrui.
Selon moi, c'est un crime plus grave que la pédophilie. Là, on est face à des gens qui veulent choisir comment avoir leur enfant, comme on choisit la couleur de sa maison ou la décoration.
Même les opposants à la GPA n'ont pas adoré l'argumentation. Il y a aussi Ignazio La Russa, président du Sénat et roi de la controverse. Dernièrement, il était interrogé sur l'attentat de la rue Rasella, un attentat de la résistance italienne contre des soldats nazis à Rome en 1944. Pour lui, ça n'était pas très noble.
Ceux qui ont été tués n'étaient pas des SS nazis, mais un groupe de musiciens semi-retraités.
Le président du Sénat a ensuite fait des excuses, mais la controverse a alimenté la presse pendant plusieurs jours. Et si c'était une stratégie, disent certains. Le gouvernement multiplie les polémiques pour ne pas parler des problèmes réels. L'émission Propaganda Live tient les comptes.
Mise à jour de la liste des faux problèmes et faux ennemis. Les rave parties, les migrants, l'opinion publique, la GPA, la farine d'insectes, les aliments de synthèse et aussi les moteurs électriques.
Parce que des problèmes, le gouvernement italien en a bien quelques-uns. Comme le fait que l'Italie va peut-être perdre une partie du plan de relance européen, faute d'avancer suffisamment dans les projets. Et il y a eu le naufrage de Cutro, le 26 février, en Calabre. Plus de 90 morts. Les gardes-côtes ne sont pas intervenus. C'est la Guardia di Finanza, donc la police, qui a tenté de rejoindre l'embarcation. Elle a fait demi-tour à cause de la mer déchaînée. L'Italie ne considère plus les sauvetages comme prioritaires, dénonce l'amiral Vittorio Alessandro.
Il y a eu un glissement progressif avec des étapes successives, des étapes inoffensives en apparence, des tables rondes d'experts, des rencontres ministérielles et même des choix terminologiques. Ces étapes ont en quelque sorte favorisé l'activité de police vis-à-vis des migrants au détriment de celle des secours. Maintenant, la priorité, c'est le contrôle du phénomène migratoire et beaucoup des bateaux qui traversent le canal de Sicile ne sont pas perçus comme des embarcations en danger, mais comme un événement migratoire.
Vous l'entendez, il est plutôt modéré, l'amiral. Il n'accuse personne, il parle d'un glissement. Mais Giorgia Meloni ne supporte pas cette vision des choses.
Je vous demande, en vous regardant dans les yeux, est-ce que quelqu'un parmi vous pense que le gouvernement italien aurait pu sauver 60 personnes, dont un enfant d'environ 3 ans, et ne l'a pas fait ? Nous n'avons pas été avertis du fait que cette embarcation risquait de couler. La route maritime n'est pas couverte par les ONG et donc les mesures du gouvernement sur les ONG n'ont rien à voir avec cet événement.
C'est intéressant parce que depuis janvier, un nouveau code de conduite est appliqué pour les navires humanitaires. Il limite leur champ d'action et multiplie les risques d'amende. Les ONG avaient prévenu, cette politique, c'est la disparition programmée de la présence de bateaux de secours. La rhétorique habituelle de l'extrême droite, c'est que ces bateaux sont des taxis permettant de passer d'une rive à l'autre de la Méditerranée. Alors c'est vrai, quand il y a des noyés, on l'entend un peu moins. Le temps de sortir une nouvelle polémique pour faire oublier les choix politiques.
L'un des grands sujets sur lesquels l'électorat de Giorgia Meloni, mais aussi les Européens, scrutent l'Italie, c'est bien sûr celui de la migration. Depuis le début de l'année, l'Italie fait de nouveau face à l'arrivée clandestine d'un nombre important d'étrangers. Depuis janvier, plus de 27 000 personnes ont rejoint l'Italie par la mer, une augmentation de 400% par rapport à la même période l'année dernière. Et il y a eu ce naufrage de Cutro fin février et le silence assourdissant de Giorgia Meloni, le choix de ne pas se déplacer, puis essentiellement des mesures répressives qui ont été prises à l'encontre des passeurs. Sarah Prestiani, vous qui êtes spécialiste de ces questions migratoires, c'est la politique de l'extrême droite qui est en marche, là, selon vous, sur ce sujet ?
Tout à fait. On voit malheureusement les visages de l'extrême droite qui fait de la migration en priorité. Les 23 février, d'ailleurs, cette code de conduite qui criminalise les ONG, qui évidemment criminalise l'opération de sauvetage, des ONG qui sont là parce que l'Italie, évidemment, ne respecte pas son obligation de sauvetage. Et puis Cutro, malheureusement, les 26 février, c'est la première d'une longue liste de naufrages qui se sont produits en Méditerranée centrale, en eau internationale, dans les eaux italiennes et au large de la Tunisie. Pas simplement, elle ne s'est pas présentée à Cutro pour rencontrer les familles des victimes, mais à Cutro a décidé de faire un conseil des ministres qui a proposé une législation qui va encore plus à criminaliser les migrants, avec un amalgame entre passeurs et trafiquants, et la limitation de la reconnaissance de la protection spéciale. D'ailleurs, c'est intéressant la question de la protection spéciale, parce qu'elle avait été effacée de la législation italienne par Salvini, remise ensuite par les gouvernements des comtés et ensuite on la revoit rélimitée avec les gouvernements des Meloni. L'accélération des expulsions, tout ça avec une méthode des fake news. Mais ce qui est encore plus grave, c'est sa politique, comme je disais, étrangère. On l'a tous entendu, le 21 février, le gouvernement tunisien a fait une déclaration de la haine en parlant avec la théorie du grand remplacement, était condamné par l'Union africaine, était condamné par la Banque mondiale et ne semble pas du tout être condamnée par l'Italie qui aujourd'hui annonce 4 autres bateaux à délivrer aux autorités tunisiennes pour intercepter encore plus des migrants, en sachant que ces migrants vont être interceptés et renvoyés dans une situation très précaire en Tunisie. Donc, tout d'abord, ne donne aucune solution. Elle a aussi essayé à nouveau de donner la faute aux autres pour l'augmentation des arrivées. Elle ne donne pas de réelles solutions pour les naufrages qui se multiplient dans les dernières semaines. Et quand je parle des solutions, je parle des missions européennes de sauvetage. Elle parle simplement de réduire les droits des migrants et réfugiés en créant encore plus d'insécurité pour les migrants, mais aussi pour la population italienne. Et donc, encore une fois, on parle d'immigration pas comme un sujet à traiter avec toute la complexité qu'il mérite, mais comme un sujet de propagande. Et c'est la typique propagande de l'extrême droite.
Sarah Prestiani parlait à l'instant de ces nouvelles règles pour les navires humanitaires en vigueur depuis janvier. En gros, les bateaux doivent rejoindre un port assigné, même s'il y en a d'autres beaucoup plus près, ne faire qu'un sauvetage à la fois. Résultat, le voyage est beaucoup plus long et il y a beaucoup moins de sauvetage. Qu'en pensez-vous, Anne-Marie Nancy, la politique de l'extrême droite ou la continuité finalement des choix politiques qu'a fait l'Italie ces dernières années ?
Là, il y a clairement une orientation, et Sarah Prestiani le rappelait, notamment dans les dialogues avec la Tunisie, mais aussi avec la Libye en matière de politique étrangère. Je fais un tout petit détour par la politique étrangère, mais je reviens à votre question. Un des buts là, de Giorgia Meloni, c'est de développer des liens avec des pays pour que leurs moyens de développement leur permettent de garder leur population. C'est ce qu'elle dit, c'est vraiment...
Discours officiel.
Discours officiel, des relations sans prédation qui permettent un développement autonome. Donc, il y a une mise en acte à la fois à l'extérieur, à la fois avec les mesures que vient de rappeler Sarah Prestiani par rapport aux migrants, qui est clairement dans la continuité des projets évoqués à la fois par ses alliés d'extrême droite, la Ligue, et par Giorgia Meloni. Et on pourrait presque dire, bon, d'une part, c'est vraiment la mise en œuvre et l'application du programme, c'est aussi une manière de continuer à donner des gages à l'électorat sur des sujets qui sont des sujets, vous le rappeliez tout à l'heure, de société. Et donc, bah, la migration s'en est un. On est dur avec l'étranger, etc. C'est le rappel de ce qui est important, c'est l'Italie, Fratelli d'Italia, le parti. Et donc, il y a toute une série d'interventions qui sont destinées à montrer cela. Par exemple, il y a très peu de temps, là, Giorgia Meloni vient d'annoncer la création d'un lycée pour promouvoir le « Made in Italy ». C'est-à-dire pour promouvoir les excellences italiennes. Il y a un mois, à Vinitaly, qui est le plus grand salon des vins italiens, elle ne craint pas en cela d'aller un tout petit peu en contradiction avec une proposition de loi qui a été faite par le vice-président de la Chambre, sur le modèle de la loi Toubon, de n'utiliser que l'italien dans l'administration, les entreprises et à l'école, avec des sanctions qui iraient de 5 000 à 100 000 euros en cas de... Donc, vous voyez, ce rapport à l'Italie, ce rapport au pays, ce rapport à la langue, ce rapport à la tradition, ce rapport à la famille, tout ça, ce sont les gages qui sont donnés sur le plan des valeurs à l'électorat. Alors que du point de vue économique, on est plutôt en train de se débattre avec l'Union européenne et d'être dans une austérité qui ne va pas nécessairement être très appréciée de son électorat. Il y a des réformes fiscales qui sont en train d'arriver. Il y a la volonté de supprimer le revenu minimum, ce qu'on appelle le revenu de citoyenneté en Italie. Donc on se positionne sur le terrain des valeurs, mais on a une pratique économique qui est sans doute moins susceptible de plaire à l'électorat en question.
C'est une façon de détourner des vrais problèmes, dites-vous, Anne Marinen. Est-ce que ça ne va pas être difficile, Sara Prestiani, de mener cette politique anti-étranger, alors que l'Italie a en réalité un énorme besoin de main-d'œuvre? C'est un pays très vieillissant. Le gouvernement Meloni a fixé par décret à 80 000 le nombre de migrants économiques autorisés pour 2023, alors que plus de 240 000 demandes ont été renseignées par les employeurs le jour du lancement de ce programme. Qu'est-ce que vous en pensez, Sara Prestiani?
C'est un bon exemple de cette approche des propagandes et pas une approche réelle qui se base sur à la fois la nécessité du marché, mais aussi le respect des droits fondamentaux des migrants, des travailleurs migrants et des travailleuses migrantes. Il y a de quelque façon aussi cette stratégie de parler, par exemple, ils ont essayé de dire oui, mais on augmente les quotas des decreto flussi, c'est donc les règlements qui permettent l'entrée sur les territoires, mais dans les faits, on n'amène pas à niveau européen une vraie discussion sur l'ouverture des voies légales d'accès au territoire qui serait la seule façon pour éviter que des hommes, des femmes et des enfants continuent à mourir au large des côtes italiennes. Donc on ne donne pas vraiment des réponses concrètes face à la situation réelle. Et malheureusement, c'est plutôt en continuité aussi avec les passés. On veut renforcer les gardes-côtes libyens pour essayer de renvoyer les migrants en Libye. Je rappelle simplement les conclusions de la fact-finding mission des Nations Unies sur la Libye, qui parle des crimes contre l'humanité pour ce qui se passe aux migrants qui sont renvoyés en Libye. Donc, de quelque façon, il faudrait aussi se questionner quand on pratique ces politiques, même si, comme l'a fait Meloni aujourd'hui, on instrumentalise la question de la migration. Si on regarde aujourd'hui, on parle beaucoup dans tous les médias, et même à niveau des mesures législatives, il y a des forts changements sur la migration. À nouveau, l'Italie, la population italienne, avec l'inflation, la crise du travail, etc., aurait bien d'autres sujets desquels il faudrait traiter et il faudrait agir avec urgence. Et malheureusement, Meloni, voilà, à nouveau, instrumentalise la question de la migration pour détourner l'attention sur des politiques auxquelles elle n'arrive pas vraiment à trouver la
réponse. Anne Marinen, vous souhaitiez réagir?
Oui, j'étais tout à fait en accord avec ce que disait Sara Prestiani. Et, c'est un peu le voile qui dissimule les vrais problèmes. Sara faisait allusion aux problèmes économiques. 2 millions de chômeurs, 23 millions d'actifs et une structure du marché du travail qui est très inquiétante. qui précarise énormément les personnes avec des revenus très bas, du travail atypique, une précarisation parfois à vie. Il y a vraiment besoin de changer la structure du marché du travail telle qu'elle a été lancée depuis Berlusconi, où on favorise des petits contrats sans protection des personnes. Ça a été relancé aussi par Matteo Renzi et ça fragilise beaucoup, beaucoup le tissu social, ces salaires bas. L'Espagne a fait complètement l'inverse il y a 2 ans sous la direction de Pedro Sanchez. Pour réduire le taux de précarité, ils ont interdit justement ces petits contrats précaires, etc. Et ils ont plutôt bien réussi parce que en Italie, il y a environ 25% des personnes qui sont en situation de précarité. En Espagne, ils sont passés de 26 à 14% et ils ont eu une croissance de 5,5%. Donc ça, ce sont des vrais problèmes. Mmh. Et je voudrais aussi mentionner une chose qui est la situation des femmes et le taux. Parce que tout le monde a dit, bah, Meloni, oui, ça y est, c'est la première femme présidente. Et attention, elle tient beaucoup au titre. Elle n'est pas présidente, elle est présidente du Conseil. Et ça, ça dit aussi quelque chose en termes de vision de la femme et de la société. Mmh. Mais donc, on a bien une femme présidente du Conseil, on a bien un exécutif avec beaucoup de femmes. Mais si vous regardez le nombre de femmes qui travaillent en Italie, le taux d'activité des femmes en France, c'est 70%. En Italie, c'est 49%. Pourquoi ? Parce que il y a des traditions, il y a une politique familiale carente, enfin, qui ne fonctionne pas. Et là, il y aurait également sans doute beaucoup d'attentes et beaucoup de choses à faire, plus que d'aller terroriser des personnes en Méditerranée en passant des alliances avec des semi-dictatures de l'autre côté des côtes italiennes.
Et en même temps, Anne Merinen, vous parliez du besoin de faire plaisir à son électorat. Or, la réalité est que la gestion répressive des migrants ne semble plus choquer ou choquer peu de monde en Italie. La dédiabolisation, la normalisation de l'extrême droite n'est-elle déjà pas bien lancée dans le pays, en Italie, Anne Merinen ?
Alors, elle est bien lancée parce que c'est un discours qu'on a entendu depuis longtemps, depuis l'émergence de la Ligue lombarde, dont une partie, la manière dont la droite s'est organisée en Italie autour de ces trois pôles, la Ligue lombarde, très extrême, très violente, puis Berlusconi qui représentait un certain conservatisme social, une certaine promotion des valeurs familiales, malgré, on va dire, la vie privée du leader. Ça s'est poursuivi ensuite avec l'espèce de normalisation du parti de Giorgia Meloni. Mais donc, dans le paysage politique italien, il y a une droite qui a gouverné pendant 20 ans sur 30 avec un durcissement des thèmes à chaque fois et de ses composantes. Et encore une fois, on met sur la question des valeurs des problèmes qui trouveraient d'autres solutions. On trouve des boucs émissaires. Et ça décomplexe une bonne partie aussi, la partie la plus violente de cet électorat, puisqu'on vient de voir récemment des rassemblements néofascistes dans Milan complètement affichés, des jeunes gens d'extrême droite qui font le coup de poing contre des élèves de lycée, comme à Florence, au lycée Michelangelo. Donc ça n'est plus seulement un discours, c'est en train de se traduire par des pratiques violentes qui ont cours dans la rue. Je passe sur les attaques l'an dernier envers plusieurs migrants. Il y a des gens qui sont morts dans la rue, battus à mort par des personnes qui se sentaient le droit de le faire.
Carrefour de l'Europe se penche sur l'Italie, 6 mois presque après l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Dans un pays où il est déjà compliqué socialement d'avorter, depuis quelques mois, les associations italiennes tirent la sonnette d'alarme sur la multiplication des entraves à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté sur le terrain, Sarah Presciani ?
Oui, un des majeurs obstacles, on les connaît bien en Italie, c'est la présence des médecins objecteurs de conscience qui refusent de pratiquer l'IVG. On est autour des 69% en Italie, avec des pics de 80% au sud d'Italie. Et à cela va se rajouter justement un discours politique qui caractérise ces gouvernements. On l'a déjà entendu en campagne électorale contre l'avortement. Alors ils disent, on va pas changer la loi, mais on va trouver des alternatives à l'avortement. C'était une des grands sujets des campagnes campagne électorale. On entend parler de la modification de l'article 1 du Code civil pour reconnaître les statuts légaux, pas de la naissance, mais de la conception. Donc voilà, ça, c'est un peu, ça revient un peu cette sphère des valeurs qui cligne l'œil à l'électorat d'extrême droite. Et donc, effectivement, aussi, là, les gouvernements ne prennent pas vraiment en charge ce qui sont les vrais défis. Par exemple, ce qui sont des mesures réelles contre la violence faite aux femmes. Mais justement, ils noient les poissons, voire ne prennent pas du tout des mesures sur cette question-là. On voit un vrai recul dans la justice des genres. Bien sûr, on a entendu aussi en mars de cette année la demande à des villes d'arrêter de registrer les enfants des parents du même sexe en créant des limbes juridiques. Et là aussi, si on revient au contexte européen, dans les mêmes journées, on rejette les règlements européens sous la reconnaissance des droits des enfants des couples du même sexe.
Oui, j'allais y venir. Il y a ces attaques sur les couples homosexuels par l'intermédiaire des préfets. Vous en parliez à l'instant. L'État a assommé plusieurs municipalités d'interrompre l'enregistrement à l'état civil des enfants issus de familles homoparentales. Et enfin, comme la Pologne et la Hongrie, la majorité italienne vient de rejeter le certificat européen de parentalité, ce texte qui permet à tous les enfants en Europe de bénéficier des mêmes droits attachés à la filiation, qu'ils soient dans un foyer homosexuel ou hétérosexuel. Cette mesure, elle a suscité d'ailleurs la colère de certains députés européens, comme Sandro Gozi, député italien élu en France sur les listes Renaissance. Je vous propose de l'écouter.
Il est clair que si on crée deux catégories de couples et on dit que les couples hétérosexuels et les enfants des couples hétérosexuels ont tous les droits et toute la famille est automatiquement reconnue en arrivant en Italie, et on dit par contre que les couples homosexuels et les enfants des couples homosexuels ne sont pas reconnus comme tels, comme parents, du moment où ils arrivent en Italie, à Milan ou ailleurs, vous comprenez qu'on crée deux catégories de citoyens européens. Ceci est inacceptable du point de vue des principes fondamentaux. C'est pour cela qu'on l'a dénoncé. Mais Giorgia Meloni, contrairement à ce qu'on a écrit aussi dans plusieurs quotidiens en France comme à l'étranger, elle n'est pas une nouvelle leader conservatrice des centres droits. Giorgia Meloni est une extrémiste de droite qui ne peut pas appliquer ses recettes dans l'économie parce que l'Italie a une situation des finances publiques qui l'oblige à tenir le cap sur les budgets, qu'elle ne peut pas changer de ligne, contrairement à ce que voudraient Berlusconi et Salvini sur l'Ukraine, parce qu'elle a trop besoin de l'alliance avec les États-Unis, mais donc elle est libre de démontrer ce qu'elle est dans tout ce qui est éducation, culture, droits fondamentaux. Et de ce point de vue, les couples homosexuels sont un bouc émissaire parfait de ces néo-réactionnaires qui sont au pouvoir en Italie et qui suivent une ligne qu'on a déjà vue bien appliquée, par exemple, par leurs alliés polonais, des Kaczynski, à Varsovie. Ça, c'est pour moi la vraie raison pour laquelle nous avons eu raison de soulever cette question au Parlement européen.
Qu'en pensez-vous, Sarah Presciani? On a parlé de ces mesures sociétales qui sont une façon de contenter son électorat tout en détournant des vrais problèmes. Mais Sandro Gozi évoque aussi ici autre chose. Est-ce que l'objectif de Giorgia Meloni est de changer l'Europe de l'intérieur, en quelque sorte, en réactivant cet axe ultra-conservateur de Budapest, en passant par la Varsovie, Rome?
Alors, tout d'abord, je partage absolument cette analyse. Elle fait l'extrême droite là où elle pense pouvoir le faire et elle modère son ton, on l'a vu au début de l'émission, dans d'autres contextes. Je pense qu'on doit avoir un horizon en tête, c'est l'horizon aussi des élections politiques européennes en 2024, et qu'il y a une stratégie qui est faite par Meloni de faire un pont avec de l'extrême droite vers la droite et créer une forme d'alliance. Mais je pense qu'il faut justement, et c'est notre rôle, de rappeler quand il y a des violations des principes basiques comme on l'a fait sur la question du genre, la question des droits des migrants, qui devient inacceptable dans un contexte comme celui européen et qui est marqué justement et mettre en avant ces positions de l'extrême droite parce qu'elles sont, elles sont telles. Donc, mais effectivement, ça ne serait pas étonnant si Meloni avait cet horizon politique aussi des élections européennes.
Anne Marinen, en tant que spécialiste de l'Italie, vous souhaitiez réagir.
Oui, il faut vraiment rappeler la matrice idéologique de Giorgia Meloni. Et sur ces 150 000 enfants de familles homoparentales qui sont dans les limbes, on le disait tout à l'heure, on est vraiment dans une affirmation d'une définition normative de la famille. Une définition qui est aussi, et alors là elle est un petit peu déçue, qui s'appuyait aussi sur une vision religieuse extrêmement traditionnaliste. Elle est pratiquante, Giorgia Meloni, et elle l'a dit, son pape c'est Jean-Paul II. C'est pas l'actuel pape François, qui n'est pas vraiment sa tasse de thé. Et cette définition normative de la famille ne résout pas du tout les problèmes de la famille en Italie, qui a un taux de natalité extrêmement bas. Et peut-être qu'au lieu d'interdire, sans donner de conseils, mais on pourrait imaginer que interdire l'enregistrement à l'état civil de ses enfants, ça ne remplace pas une politique d'incitation à la natalité, de création de crèches ou une politique fiscale. Il faut rappeler qu'en Italie, il n'y a pas de quotient familial, par exemple. Donc vous n'êtes pas extrêmement incité à avoir des enfants. En revanche, la définition normative de ce que doit être la famille normale, ça, c'est mis en avant, mais au détriment d'une réelle politique familiale. Tous les partis de la coalition avaient soi-disant des mesures contre la dénatalité. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est des déclarations contre les familles homoparentales.
Anne Marinen, vous parlez là de contre-feu identitaire, sans doute pour masquer aussi le manque de marge de manœuvre de l'économie. Mais est-ce que ce sont les prémices d'une dérive à la Viktor Orban, par exemple? Est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on voit qui se passent en ce moment? Je pense notamment au renouvellement des présidences des grandes entreprises publiques qui ont lieu en ce moment en Italie.
Alors, c'est un renouvellement qui va être un petit peu aussi contraint par l'économie et par les enjeux économiques. Donc, il me semble que l'Italie a suffisamment de fonds de résistance, on va dire, politique, même si la gauche s'est quand même beaucoup effondrée. Quand on regarde les sondages et les intentions de vote actuellement, même avec l'élection de la nouvelle secrétaire du Parti démocrate, Elie Schlein, le Parti démocrate est à 20%. Ce qu'on peut regretter, c'est que les corps intermédiaires, comme les syndicats, sont un petit peu silencieux en ce moment sur toutes ces questions. Il y a eu quelques manifestations, mais il n'y en a pas beaucoup. Bon, en revanche, à la différence de la Hongrie, il y a quand même un maillage social et démocratique. Ça me paraît difficile d'aller vers une dérive de ce type-là. Mais le langage va être celui-là et tout est choisi pour ça. Il y a deux derniers exemples qu'on peut citer, qui sont récents, qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui vont dans cette ligne-là. L'Italie a été le seul pays à interdire ChatGPT parce qu'il ne respectait pas les normes du RGPD. Mais le choix de l'interdire et de faire beaucoup de bruit en l'interdisant, c'était un peu un anti-modernisme, un anti-américanisme. C'est ce type de prise de position. Donc, je ne pense pas qu'on aura un basculement, comme vous le dites, à la Viktor Orban, parce que ça voudrait dire une mise en coupe réglée de la presse, etc. Et les pouvoirs économiques ne sont pas de ce côté-là, il suffit de voir les déclarations de la Confindustria, etc. Ils n'auront pas les moyens de faire ça. En revanche, du côté des valeurs, il y a cette tentation, oui.
Est-ce que l'horizon de Giorgia Meloni, pour conclure, c'est les élections européennes de 2024 en tentant de créer cette alliance des partis d'extrême droite, Anne Marinen?
Alors, les horizons électoraux, en premier lieu, ceux qui ont lieu en Italie en ce moment, et ce qu'on appelle, et Sandro Gozzi le disait très bien, on dit centre-droit, il faut faire très attention, c'est ce qu'on appelle un effet de cadrage. On n'est plus au centre-droit, là, on est vers une droite affirmée et revendicative, mais la coalition choisit de s'appeler centre-droit. En tout cas, ils ont remporté les trois dernières élections régionales au Frioul, et en particulier, ils ont arraché le Latium à la gauche. Donc les premières échéances, elles sont nationales. Pour ce qui est des élections européennes, elle va marcher sur la corde raide entre la tentative d'arriver à voir quels vont être les résultats dans les autres pays pour éventuellement pouvoir former un groupe extrêmement puissant et beaucoup plus à droite que les groupes qui existent et surtout beaucoup plus puissant que les groupes qui existent et qui sont un petit peu éclatés actuellement.
Carrefour de l'Europe était consacré à l'Italie 6 mois après l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Merci à Sarah Prestiani, directrice du plaidoyer à Euromed Rights, et Anne Marinen, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 8, d'y avoir participé. Ludivine Amado était à la réalisation. Merci à la documentation pour son aide à la préparation de cette émission. Retrouvez tous les épisodes de Carrefour de l'Europe en podcast. Abonnez-vous et sinon, à la semaine prochaine.